France Musique. Les grands entretiens, Laurent Valero.
Bonjour, je suis Gustavo Beitelmann, musicien argentin de Paris.
Gustavo Beitelmann, on va venir à vos activités après celles de musicien de tango, de musicien de ce trio parisien, de votre arrivée à Paris, votre activité de pédagogue. C'est une activité, c'est une part importante également de votre travail.
Tout à fait.
Et comment est-ce que vous l'envisagez, le fait de transmettre? Alors, on va aussi préciser que vous avez fait divers classes, divers résidences comme compositeur invité en France, en Allemagne. Et vous êtes le responsable du département tango d'un grand conservatoire à l'étranger, à Rotterdam.
Ouais.
Et comment vous envisagez cette activité de pédagogue en tant que musicien par rapport à la nouvelle génération des jeunes qui veulent jouer le tango?
J'ai reçu une invitation pour aller à Rotterdam parce que ces jeunes départements de tango avaient été créés par deux jeunes musiciens hollandais. Pour eux, Osvaldo Pouliez était un phare. Donc, ils avaient nommé Osvaldo comme directeur musical. Osvaldo meurt, et eux, ils pensent que moi, je devais le succéder. Et moi, quand on me dit ça, je trouvais farfelu, franchement, parce que le tango étant une langue maternelle, vous fonctionnez beaucoup avec soit l'affection, soit les souvenirs, la mémoire, ce que vous voudrez, mais vous n'avez pas une forte idée théorique de comment approcher cette musique. Donc j'ai trouvé que, quand ils m'ont dit ça, que c'était très loin, que c'était comme impossible. Justement, l'idée de l'impossible a déterminé que j'accepte.
Enfin, et oui, parce que vous aviez appris le tango, vous nous l'avez expliqué, dans les précédentes émissions, en travaillant avec des orchestres sur le tas.
Ni plus moi, et avec les oreilles, parce que tout ça était là. Donc, comment expliquer à un jeune qui me dit « Alors, comment vous avez fait ?» Si je raconte que je me souviens les jours, enfin la nuit plutôt, de la création de La Ultima Curda par l'orchestre de Troilo.
Oui, qui est un grand classique du tango, ouais. La Ultima Curda.
Bon, ils avaient promotionné ça par la radio pendant, je ne sais pas moi, une vingtaine de jours. Donc, c'était la famille, on était en train de dîner avec la radio, le poste là. Enfin, on ne pouvait pas faire ça. Ma mère me flanquait une baffe. Non, parce que on allait être les témoins de la création de La Ultima Curda. Donc, je dirais, c'était de tous les jours, c'était à chaque moment, pour peu que les oreilles vous intéressent. Était là où le preniez. Moi, par exemple, pour donner une idée un peu vulgaire, je dirais même, de ce qu'est le tango dans ma vie, c'est que les 95% des tangos que je joue, et Dieu sait qu'ils sont beaucoup, je les ai appris parce que c'était là. Donc l'oreille a fonctionné et je l'ai gardé dans l'oreille et c'est fini.
Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tenés razón, la vida es una herida absurda y todo, todo tan fugaz, es una curda nada más mi confesión.
Moi, ce que j'avais compris, c'est que si moi, je n'allais pas pouvoir transmettre des choses que je n'avais pas claires, puisque tout ça était un magma dans ma tête, non ? Qui était Gustavo Beitelman ? Qui était sa vie depuis qu'il était sur Terre ? Et qui était rien, qui était tout ça comme l'air ou le jasmin en novembre en Argentine. Et ça a été une très bonne occasion, non ? Pour me démontrer que je ne suis pas un âne, que je suis capable de penser, et établir une proposition à des gens qui n'ont rien en commun, parce que s'il y a une chose belle dans cette classe que je tiens depuis plus de 20 ans, c'est que vous avez au moins 9 ou 10 nationalités, entre des Kazakhs, des Français, des Italiens... Russe, finnois, allemand, belge, équatorien, chilien, mexicain. Donc, il faut organiser, non, un discours et une méthodologie d'approche, non, pour que ces gens-là puissent être armés pour pratiquer le tango.
De votre poste d'observateur, de responsable du département tango à Rotterdam, très cosmopolite, comme vous venez de le dire, ouais. que c'est une musique qui se porte bien, qui s'exporte bien aussi, qui est très vivante dans le monde. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Bon, il y a deux choses. Je pense que, Dieu merci, le tango ne sera jamais une chose massive. Donc, Dieu nous garde. Donc, il y a un univers qui assure la survivance. Par exemple, l'autre jour, quelle fierté penser que dans un concert, je dois être le seul Argentin au milieu de que des jeunes musiciens français qui pratiquent cette musique. C'est moi, je suis hyper fier de ça. Je dis parce que c'est là qui veut dire que la musique qu'on défend a un sens pour tous ces jeunes, non, qui ne sont pas les fils d'Argentins en manque d'Argentine. Ils sont des franco-français qui sont là, ou comme mes élèves, qui sont, je ne sais pas moi, de n'importe quelle nationalité, mais qui ont été frappés par l'intensité du message du tango. Bon. Je pense que, de ce point de vue-là, je suis extrêmement confiant de la portée de cette musique. Si les éléments sont communs, autrement dit, on partage les codes et les conventions qui président à cette musique, effectivement, peut être universelle. Alors, et pas locale. C'est que moi, je me suis évertué perdu la voix à dire à tout le monde que ça peut l'être. Ça ne l'est pas. Ça peut l'être. Parce qu'il faut connaître les codes et il faut respecter les conventions.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Gustavo Bettelmann.
Vous parliez, Gustavo Bettelmann, de votre amour du jazz, la rencontre dans vos jeunes années avec Thelonious Monk, un compositeur sur lequel vous avez travaillé en particulier, et dans la forme du trio également, c'est Duke Ellington. Alors ouais. Comment est venue l'envie d'acclimater, je dirais, la musique d'Ellington à l'univers du tango ?
La musique d'Ellington est liée à mon existence, parce que c'était un des héros de mon père, qui jouait Sophisticated, Caravan, I Got It Bad, enfin, tous ces thèmes qui font le répertoire d'Ellington, il les jouait. Donc moi, je jouais avec lui, et je l'accompagnais. Donc, pour moi, Ellington... fait partie des sons de mon enfance, pas de ma jeunesse. Donc, je l'ai dans l'oreille. Quel voyage a pu faire cette matière pour passer d'un ambitus à un autre, d'un genre à un autre? Ça, c'est ma curiosité personnelle et, je dirais, un exercice de traduction. J'étais toujours fasciné parce que j'ai toujours cru, puisque quand vous voyez que tous les grands écrivains ont traduit d'autres grands écrivains d'une langue à une autre, je pense à Borges avec Walt Whitman, ou je pense à Zweig, avec la grande littérature française du 19e, et ainsi de suite, tout le monde, non, ou à Baudelaire avec Poe. C'est-à-dire, ce qui m'a fasciné toujours, c'est qu'il y a quelques secrets là d'enrichissement de sa propre langue en travaillant la traduction, non? Et un boulot aussi de récréation qui m'interpelle, moi. Et c'est là aussi touche un autre point intéressant qui est le fait de l'arrangement, qui pour moi est l'égal de la récréation.
Alors justement, parlons-en de l'arrangement, parce qu'on est, comme vous le dites, à la frontière de la composition, de la recréation d'une œuvre, et c'est quelque chose que vous avez beaucoup pratiqué. Vous nous parliez tout à l'heure des chanteurs auxquels il faut aller s'adapter. Ouais. L'arrangement, c'est quand on est compositeur soi-même. Comment est-ce qu'on l'envisage, justement?
Avec humilité. Mais moi, ça, je l'ai appris aussi de mes majeurs, hein. Un jour, j'ai eu toujours une excellente relation avec Orestes Salgan. J'étais encore jeune et tout ça. On se rencontrait de temps à autre en bas de sa maison pour prendre un café. J'allais lui rendre visite. Et donc, je lui demandais. Il me dit, écoutez, moi, j'ai un système tout simple. Je prends une pièce, je la joue 100 fois si nécessaire. Et quand la pièce commence à devenir mienne, je sais que je commence à avoir des idées comment aborder la pièce. Avant ça, je n'aborde rien. Donc je la joue. Et un jour, je commence à comprendre quelles sont les portes qu'elle ouvre, quels d'autres endroits il ne faut pas aller parce que ce n'est pas exactement la pièce. Et c'est comme ça que je travaille, disons, que j'aborde un arrangement.
dites, les premières fois que vous revenez en Argentine, après l'avoir quitté dans des circonstances quand même assez terribles, ça se passe comment ? Évidemment que la dictature n'est plus là. Comment ça se passe, les premiers concerts, les premiers retours ? Vous avez joué récital en solo au Théâtre Colonne et vous avez travaillé régulièrement en Argentine.
Si, mais même avant, j'ai la première fois qu'on joue, c'est en 86, 10 ans après mon départ, au Théâtre Saint-Martin, qui est une sorte de théâtre de la ville, avec la même fonction. Hein. Et moi, je connaissais bien le directeur du Théâtre de la ville. Donc, il était enchanté de nous inviter, donc on est allé avec Mussolini et Caratini. Bon, mais imaginez-vous, en plus, les parterres étaient des choix, parce que la quantité de collègues qui se sont réunis pour venir suivre les concerts du trio a été considérable. En plus de types comme Osvaldo Pugliese ou comme Leopoldo Federico.
Oui, de très très grands musiciens.
Si, bien sûr, et pas n'importe qui.
Ça devait être intimidant.
Ben, Dieu merci que je les ai vus après, et pas avant. Oui. Donc ça a été très touchant. Ça a été effectivement, parce que nous sommes sortis, nous avons joué, et à la fin du concert... Disons, quand il y a les lumières de la salle et tout ça, on a vu que tous ces gens-là étaient assis. Et ça a été assez fort. Et ça a été, comment dire, une revanche. Ça valait les 10 ans de misère. Non. Le fait que les collègues aient manifesté une amitié.
Oui, oui.
Ça.
Ça veut dire que ce n'était pas si évident que ça? Puisque vous étiez parti et que eux ils étaient restés.
Pour moi, il y avait des non-dits. Ça, cette porte-là, j'ai eu beaucoup de soupçons et je n'ai pas voulu essayer de l'ouvrir. Mais j'étais persuadé que comme si on passait une facture, non, à quelques-uns comme Mussolini et moi, que dans des très mauvais moment, on avait pu, par une disgrâce personnelle, par exemple la mienne, de devoir partir, et pas parce que j'avais décidé de partir, et avoir trouvé une possibilité de vivre en France. Bon, je pense que les gens m'en voulaient de ça. Mais je n'ai pas insisté sur ça. C'est bon. J'ai laissé courir parce que j'étais persuadé que je n'avais pas tort de ce que je pensais. Non, parce que les circonstances argentines étaient hyper dures.
Et c'était important.
Moi, mon travail essentiel, disons ma volonté, a été aussi de ne pas être réduit au fait d'anciens exiliés. Et dire, écoutez, ça c'est du passé, regardez-moi, je suis un artiste. Je suis pas un ex-exilié, même si c'est vrai.
Comment vous avez retrouvé l'état de la musique du tango qui avait un peu disparu dans les années 70? Et dans les années 80, c'était comment? Je pense à quelqu'un comme Melingo, par exemple, qui est revenu au tango alors qu'il avait un passé de musicien de rock. Ou aussi Adriana Varela en Argentine.
Adriana Varela,
et tout ce mouvement de musiciens qui ont, dans les années 80, retrouvé leurs racines musicales ou les racines musicales de leur pays qui était le tango,
ouais,
et qui ont réinvesti ce territoire-là.
Ni plus ni moins, Laurent. Et même, moi, j'ai une mémoire d'une fête familière qui pour moi était comme une autre, et la présence de ma femme française m'a fait remarquer ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Parce qu'à la fin de la fête, non, qui étaient des amis de Venado Tuerto qui vivaient à Buenos Aires, que ma sœur avait appelé pour que nous soyons tous ensemble, profitant de mon passage par Buenos Aires, dit, ok, on se quitte. Hein? Bon, donc je joue quelque chose, Gustavo. Ok, je vais jouer quelque chose. Dit, ok, mais je joue quelque chose, on puisse tous chantonner. Donc, on a joué Sur.
Oui, un grand tango classique.
Laurent, tous, sans exception, y ont chanté, ils savaient les paroles. Moi, je ne me suis pas aperçu, parce que pour moi, ça fait partie du quotidien de toute mon existence. Mais Joël, ma femme, à la sortie, on va dîner après tous les deux, il me dit, tu n'es pas rendu compte, Sur, c'est comme un deuxième hymne national. Tout le monde le chante, tout le monde le sait, même ceux qui disent qu'ils ne s'intéressent pas au tango. Mais Sur, par exemple, après, tout le monde le chante. Bon, donc, c'est un peu ça. Non?
La boucle est...
La persistance de quelque chose dans un organisme, on dit, non, il est un peu perdu, je ne sais plus où il est. Il est là. Il est un peu endormi. Et je pense que c'est ça qui est arrivé. C'était un peu endormi. Et maintenant, ouais, bon, il a une existence au milieu d'autres musiques, mais elle existe.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después la luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote.
Cette série de grands entretiens avec le compositeur, pianiste et pédagogue argentin Gustavo Beitelmann se referme avec ce grand classique du tango, El Sur, chanté ici par Reinaldo Anselmi et le grand orchestre de Juan José Mussolini. Prise de son Pierre Monteil, mixage Tahar Bouklifa, attaché de production Marie Ferdinand, cette série d'émissions a été réalisée par Lionel Quentin. Les grands entretiens sont disponibles à la réécoute et en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.